الحمد لله منزل الفرقان القائل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Toutes les louanges reviennent de droit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a révélé le Coran, le discernement. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens du verset, et voici les paraboles que nous mentionnons. Voici les paraboles que nous mentionnons aux gens, mais ne les comprennent que les savants. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين للناس ما نزل إليه أوضح بيان وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. الله سبحانه وتعالى nous a révélé ce noble Coran et on a fait le plus grand des miracles qu'il est accordé à un messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma min al-anbiya » Il n'y a pas de prophète. « Nabiyun illa u'tiya ma mithluhu amana alayhi al-bashar » Il n'y a pas parmi les prophètes de prophète sans qu'il n'ait reçu de miracle afin que les gens puissent croire en lui. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ Quant à moi, ce qui m'a été accordé, c'est une révélation qu'Allah me fit. Le plus grand des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc le Coran. فَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ J'espère donc être la communauté qui aura le plus de suiveurs le jour de la résurrection. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Ainsi, ce Coran, il n'y a pas une personne qui le lit, une personne qui le médite, sans que ça apporte la bénédiction dans sa vie, la lumière et le bonheur. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait entendre à Jibril alayhi salam, qui est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a guidés et a utilisé plusieurs méthodes pour ce faire. Et parmi les méthodes les plus nobles et les plus éloquentes, il y a darbul amthal. Il y a la mention des paraboles du Coran. Et beaucoup de ces paraboles ont pour but d'établir une ressemblance entre une chose conceptuelle qu'on ne voit pas et une chose qu'on peut dessiner dans notre esprit parce qu'on l'a déjà vue, parce qu'elle est matérielle, suite à un point de comparaison entre les deux. Tantôt, c'est pour nous encourager à une bonne action. Tantôt, c'est pour nous éloigner d'une mauvaise action. Tantôt c'est pour valoriser le tawhid et montrer la place de ses adeptes. Tantôt c'est pour rabaisser le shirk et nous montrer l'égarement de ses adeptes. Et dans le Coran, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il y a une quarantaine de paraboles. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en avons étudié 5. Passons à la 6e. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre qu'une averse l'atteigne. Elle le laisse dénué. De pareils hommes n'en tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas. Les gens mécréants. Dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne l'annulation des bonnes œuvres à cause de l'ostentation. Cette parabole est une parabole qui est mentionnée pour exposer le résultat des œuvres de celui qui agit par ostentation. Par miséricorde pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous a interdit, nous a averti contre toute parole, contre toute action qui pourrait annuler nos bonnes œuvres. Par miséricorde pour nous, dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit et nous interdit toute parole et toute action qui pourrait annuler nos bonnes œuvres, notamment as-sadaqat, les aumônes. Et on nous mentionne deux choses. La tubtilu sadaqatikum. La première, c'est quoi? Al-man. La deuxième, c'est quoi? Al-adh. C'est quoi al-man wal-imtinan? C'est le fait de faire un bien à une personne et de le lui mentionner ensuite. Tu mentionnes tes grâces. Tu mentionnes ta faveur sur lui. Tel jour, je t'ai fait ça. Tel jour, je t'ai donné. Te rappelles-tu lorsque tu étais en difficulté que je t'ai dit et que je t'ai fait et que grâce à moi tu as eu et tu as pu? Ça s'appelle Edman, ça s'appelle l'imtinan. Venant de la faible créature, c'est blâmable. C'est blâmable. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que ça annule la sadaqa. La deuxième chose, c'est l'adha, c'est la nuisance. Certains savants ont dit, al-man, c'est avec la langue. Al-adha, avec les membres. Donc, on tire une grande leçon, pour commencer. C'est que les mauvaises paroles et les mauvaises actions peuvent annuler les bonnes paroles et les bonnes actions passées. Qu'est-ce que ça doit susciter en toi? الخوف الشديد من حبوط العمل. Tu dois avoir extrêmement peur de te voir annuler tes bonnes œuvres. Ça ne suffit pas de faire la bonne action. Tu dois ensuite la préserver et la garder afin de pouvoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec, afin que ça pèse lourd dans ta balance de hasanat yawm al-qiyamah, afin que tu obtiennes l'agrément d'Allah, donc son paradis. Tout comme la bonne action, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, tout comme la bonne action efface la mauvaise, eh bien la mauvaise action peut effacer la bonne. Ainsi, dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre ce qui peut annuler les bonnes œuvres et par conséquent nous encourage à l'excellence dans la bonne action, puis à sa préservation de tout ce qui peut diminuer sa récompense, ou pire encore, l'annuler et la faire disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés par une appellation qui est noble. Laquelle? Al-Iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés par l'appellation de la foi, en disant, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Et pourquoi cela? Parce que le croyant, c'est celui qui a été comblé du bienfait d'Allah, premièrement. Parce que le croyant, c'est celui qui se soumet à l'ordre d'Allah et répond à son appel. Comme Allah t'a comblé par le plus grand bienfait qui est la foi, toi, en réponse, tu dois être comment? Dites-moi, quand on te comble d'un bienfait, c'est quoi la réponse? La reconnaissance, n'est-ce pas? Et la reconnaissance se traduit soit par une bonne action appliquée, soit par un péché à délaisser. Ainsi, lorsqu'Allah nous appelle dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu », Suite à cela, il y a soit un ordre, soit un interdit. Parce que c'est en appliquant l'ordre d'Allah et en délaissant la désobéissance d'Allah qu'on se montre reconnaissant. Qu'on se montre reconnaissant. Comme vous le savez, les piliers de la reconnaissance sont au nombre de trois. Al-i'tiraf bil mun'im, le fait de reconnaître que tout bienfait nous provient d'Allah, donc augmenter son amour pour lui. Deuxièmement, at-tahadduth bi ni'matillah, le fait de mentionner les bienfaits d'Allah. Et troisièmement, utiliser les bienfaits d'Allah à la recherche de son agrément. Celui qui réunit ces trois piliers aura concrétisé quoi? Al-shukr, la reconnaissance. Donc lorsque vous voyez dans le Coran, ya ayyuha alladhina amanu, on s'adresse à qui? On s'adresse à toi. On s'adresse à toi. On s'adresse aux croyants. On leur mentionne le plus grand bienfait par lequel Allah les a comblés, afin qu'ils soient prédisposés par ce rappel-là à se soumettre, soit à une demande, soit à une interdiction. Soit à une demande, soit à une interdiction. Al-man, celui qui fait une sadaqa, et ensuite vient rappeler à la personne ce qui lui a fait comme bien, en général, comme le dit Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ça vient de l'avare, Al-Bakhil, du mutakabbir, de l'orgueilleux. Celui qui donne et ensuite se vante de ce qu'il a fait aux gens, en général, il a ces deux problèmes-là. Il est radin et il est orgueilleux. Il n'a pas digéré le don, alors il parle mal. Alors qu'il cherche la moindre occasion pour te rappeler le bien qu'il t'a fait. Al-adha, tout ce par quoi la personne peut recevoir une nuisance. Tu lui as fait du bien, ne fais rien après cela qui pourrait lui nuire en rapport avec ta donation. En évitant ces deux choses-là, tu vas préserver les hasanat de ta sadaqa. Et écoutez ce hadith terrifiant. Écoutez ce hadith bouleversant de Abu Dharr, radiallahu anhu, apporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Thalathatun la yukallimuhum Allah. Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas yawm al-qiyama, le jour de la résurrection. Qui est le premier? Al-man. Al-man. Le premier. Alladhi yu'ti shay'an. Alladhi la yu'ti shay'an illa man. Celui qui ne donne pas une chose sans par la suite en faire la mention. Wadih. Parmi les trois à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection. Al-Mannan, alladhi la yu'ti shay'an illa manna. Celui qui mentionne ses faveurs aux gens, il ne donne rien sans faire suivre ce don du rappel de ses faveurs. Al-Munfiqu sil'ata bil halif, celui qui écoule sa marchandise quand jurant par Allah. Wallahi, c'est la qualité, wallahi, ça vaut tant, wallahi, tu peux le revendre tant. Quand il vend, il ne fait que jurer par Allah pour écouler sa marchandise. Le troisième, al-musbilu izara. Celui, c'est l'homme qui laisse descendre ses vêtements sous ses chevilles. Hein? Ce péché qui est peut-être minimisé chez les gens. Hein? Et même pris pour exagération par d'autres dans la religion d'Allah. Alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, ici nous montre que c'est un péché grand. C'est un péché grave, c'est un grand péché. Le fait de laisser descendre son vêtement sous les chevilles alors que tu es un homme, c'est pas une chose à prendre à la légère. Il faut éduquer. Il faut s'éduquer sur cela. Barakallahu fikum. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne en parabole l'exemple de celui qui annule ses sadaqat. Allah azza wa jalla nous mentionne une parabole pour matérialiser le résultat des bonnes œuvres de celui, ou bien, na'am, des bonnes œuvres de celui qui annule ses œuvres. Par quoi? Par l'ostentation. Allah Azza wa Jal ici établit une similitude entre la finalité des bonnes œuvres de l'ostentateur et la finalité de la poussière qui était sur un rocher après une grosse pluie, après le passage de l'eau. Que restera-t-il des bonnes œuvres de l'ostentateur? Que restera-t-il de la poussière sur le rocher? Là est la parabole. La personne œuvre. Allah Azza wa Jal nous montre que la personne a œuvré. La personne a dépensé. D'accord. Lorsque cette personne dépense, qu'est-ce que nous on pense de lui? Qu'est-ce que nous on voit de lui? On a une bonne opinion, n'est-ce pas? On pense du bien de lui, on dit « Mashallah, il est généreux. Mashallah, il fait du khayr. » Et ça fait même partie des gens que tu peux envier dans le sens t'aurais aimé être comme lui. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a interdit d'envier les gens. Il a dit « Sauf trois personnes. » Parmi les trois personnes, celui à qui Allah azza wa jalla a donné des richesses et il dépense de jour comme de nuit. Ça, c'est l'image. Ça, c'est l'apparence. Mais qui connaît le contenu des cœurs? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en apparence, il fait du bien, il dépense, il reçoit les éloges des gens. Peut-être même les gens l'envient. Naam, mais à la fin, son action sera rejetée. Pourquoi? Parce que l'action n'est pas acceptée chez Allah sans deux conditions. Lesquelles? La première, l'ikhlas, la sincérité. C'est quoi la sincérité? C'est de viser qu'Allah par ton acte. La deuxième condition, c'est quoi? Al-Mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Et ces deux conditions, tu les retrouves dans quelle attestation? Ashhadu an la ilaha illallah, c'est la première. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est la deuxième. N'est-ce pas? Toute action qui ne repose pas sur ces deux conditions-là est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne l'accepte pas. Et celui qui se comporte ainsi, il dépense, mais en réalité, c'est pour obtenir les éloges des gens. Donc, par ostentation, il a une ressemblance avec la pire des catégories humaines. Et laquelle? Al-Munafiqoun, qu'Allah nous en préserve. Les hypocrites. Les hypocrites. Et pour ce faire, pour s'en prémunir, il faut d'abord savoir c'est quoi l'ostentation. C'est quoi Al-Riya? Al-Riya, ça vient de Ru'ya, c'est la vue. Al-Riya, c'est quoi? C'est fi'lul khayr lil ghayr. Riya, l'ostentation, c'est de faire le bien pour autrui. Tu espères les éloges des gens. Tu fais pas le bien pour Allah. Tu fais le bien pour que les gens disent « Masha'Allah, il fait le bien. Masha'Allah, il est généreux. Masha'Allah, il dépense son argent pour Allah. » On aurait aimé lui ressembler. On aurait aimé avoir un enfant comme lui ou un gendre comme lui. C'est ça l'ostentation. C'est de faire le bien en apparence. Mais intérieurement, en espérant les éloges des gens, sans rechercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ostentation, ikhwat al-iman, a'adhan Allah wa iyyakum min, se divise en deux. Il y a al-riya al-akbar, ou il y a al-riya al-asghar, qu'on appelle aussi yasirul riya. Il y a l'ostentation majeure, c'est l'ostentation des hypocrites. Et il y a l'ostentation mineure, c'est l'ostentation qui peut toucher le croyant dans certaines actions. L'ostentation majeure, c'est l'ostentation qui touche toutes les œuvres. Premier moyen de la reconnaître. Deuxièmement, c'est dans la base de l'action, dans la base de la foi. Deuxième moyen de le reconnaître. Troisièmement, elle se matérialise sur qui? Sur les hypocrites. Nifaqan i'tiqadiyan. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Les hypocrites certes tentent de tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils se lèvent avec paresse. Ils sont pleins d'ostentation envers les gens. Et ne mentionnent Allah que très peu. Ne mentionnent Allah que très peu. Le grand savant, Ubaydullah al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, disait qu'il y a des caractéristiques dans ce verset qui doivent effrayer le croyant et desquelles il doit se préserver. Rahimahullah. Ça, c'est l'ostentation majeure. L'ostentation mineure, c'est l'ostentation qui peut avoir lieu dans certaines actions, pas toutes. Qui peut avoir lieu du croyant. Et qui ne vient pas dans la base de l'action, mais qui survient. C'est-à-dire que le croyant, lui, il se lève, il prie pour Allah. N'est-ce pas? Il fait la sadaqa pour Allah. Mais il se peut que, ressentant le regard d'une personne, d'une créature, il se mette à embellir sa salate. La base de sa salate, elle est pour Allah. Mais il embellit sa salate, c'est ça l'ostentation du croyant. C'est ce rajout-là. C'est ce passage-là. C'est ce moment d'insouciance et d'égarement-là. Ça vient s'ajouter à son action et ça vient l'annuler. Il augmente la lecture du Coran ou il améliore sa salate parce qu'il ressent le regard des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit c'est ce qu'il a le plus redouté pour les compagnons. C'est l'ostentation. L'ostentation mineure. Et comme disaient les savants du tawhid, si le prophète alayhi salatu wassalam a eu peur de la petite ostentation pour ses compagnons, nous, on n'est plus en droit d'avoir peur de quoi? La grande ostentation. Qu'Allah nous en préserve. L'ostentation, c'est une des maladies les plus destructrices, les plus délétères pour le serviteur. C'est pire qu'un cancer en phase terminale. L'image des maladies du cœur à travers l'ostentation est comme l'a décrit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. فذلك البحر الذي لا ساحل له. C'est à l'image d'un homme au milieu de la mer dont il ne voit pas les côtes. Qui va être sauvé? Qui va être sauvé de l'ostentation? Ne sera sauvé que celui qu'Allah aura sauvé. Le shirk dans les intentions, c'est la chose la plus difficile à maîtriser. C'est la chose la plus terrifiante. C'est pour cela qu'on n'a que Allah Azza wa Jal pour se sauver de ce malheur. Pour se sauver de ce malheur, il faut désespérer de recevoir le bien des gens. Et il faut se concentrer sur celui qui donne la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne en image ce qui va nous permettre de visualiser, de dessiner, de percevoir pleinement la finalité de l'œuvre de celui qui l'a faite par ostentation. Par ostentation. Au lieu de dire, celui qui dépense sans la sincérité n'aura pas de récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهَا وَابِلٍ. Son exemple est l'exemple d'un rocher. C'est l'exemple d'un rocher. Ce rocher-là, il est lisse et il est recouvert de terre et de poussière. Vous visualisez? Un rocher, il est lisse, il est recouvert de terre et de poussière. Il est recouvert de terre et de poussière. Es-Safwan, c'est le rocher qui est lisse. Alayhi turab, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a du sable, de la poussière. Alors qu'il est ainsi, fa'asabahu wabil. El-wabil, c'est une averse. Matarun shadidun razir. El-wabil, c'est une averse qui s'abat dessus. Donc, il y en a beaucoup, naam, et c'est fort. Il y en a beaucoup, et c'est fort. Que pensez-vous de l'averse qui s'abat sur le rocher, qui est lisse, et dessus il y a de la poussière? Que pensez-vous qu'il restera de cette poussière? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Il l'a dénué totalement. Il l'a dénué totalement. Ça veut dire il ne reste rien de comme poussière, comme mada, comme sable. Il ne reste rien dessus.
Ça, c'est l'exemple de l'ostentateur lorsqu'il fait les sadaqat. Il ne reste rien de ses hasanat. Vous voyez ce rocher? Pourquoi avoir choisi le rocher? Et pourquoi avoir choisi la poussière? Le rocher a pour propriété, quel qu'il soit, d'être comment? D'être dur. Le cœur du munafiq, le cœur du mura'i, le cœur de celui qui ne cherche pas la récompense d'Allah, il est qasi, il est dur. Son cœur, il est dur. Naam, son cœur est dur. Et sa sadaqa, ce qu'il donne, c'est à l'image de la poussière qui recouvre le rocher. Naam. Quand les gens le voient, ils font les éloges. En apparence, c'est beau. En apparence, c'est fort. En apparence, c'est dur. Naam. Mais pourquoi cela? Parce qu'ils pensent que c'est une bonne terre. Parce qu'ils pensent que c'est une chose qui a de la valeur. Parce qu'ils pensent que c'est une chose prisée. Mais lorsque la réalité leur apparaît, après le passage de l'averse, qu'est-ce qu'ils trouvent? Il ne reste plus rien. Et là, la réalité leur apparaît. Et là, ils se rendent compte que la seule chose qui paye, c'est quoi? C'est l'ikhlas. C'est la sincérité. C'est la sincérité, l'état du cœur plus important que l'état extérieur. Donc la réalité apparaît quand? Quand l'averse tombe, quand la pluie forte s'abat, ça enlève toute la poussière, ça fait disparaître toutes les hasanats. Ici, on nous montre que la bonne action en apparence qui ne reposait pas sur la sincérité a été balayée par l'averse, a été balayée par le shirk, a été annulée par le shirk. Ensuite, Allah nous dit « La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu » Ils n'arrivent à rien de ce qu'ils ont tiré. Dans le sens où ils ne pourront rien faire avec ces hasanats-là parce que ça ne reposait pas sur la sincérité. Ils n'en possèdent rien en réalité. Ils ne peuvent rien en faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi pour les gens. Allah Azza wa Jal nous dit ensuite « Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin » Allah ne guide pas les gens mécréants. Allah Azza wa Jal les a détournés parce qu'ils se sont détournés de son but. Ils se sont détournés de la sagesse pour laquelle ils ont été créés, le tawhid, l'ikhlas. Alors Allah Azza wa Jal ne les guide pas. Ils ne tireront aucun profit de leurs œuvres le jour du jugement dernier. Donc on comprend que la chose la plus importante, ikhwat al-iman, c'est quoi? Ahamu shay tawhid. Ahamu shay ikhlas ud-din lillah. Lidha khalaqana Allah subhanahu wa ta'ala, lidha arsala ar-rusul wa anzala al-kutub. Naam. C'est pour cela qu'Allah nous a créé, la sincérité. C'est pour cela qu'Allah a envoyé tous les messagers, la sincérité. C'est sur cela qu'on va être jugé et interrogé le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum wa la kin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum » Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos corps. Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Le cœur, c'est l'endroit d'ikhlas. Les œuvres, c'est l'endroit du suivi du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est ça qui compte, c'est ça qui pèse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il en a fait le premier pilier de l'islam et sa porte et la clé du paradis. On tire de cette parabole qu'il n'y a aucun profit à avoir des bonnes œuvres et à avoir le bon comportement et à faire du bien tant que ça ne repose pas sur la sincérité et l'islam. Et de là, tu vois comment certains sont trompés. Regardez les autres, ils ont un bon comportement, et ils sont comme ceci, et ils ont des structures, et ils ont, et ils ont, et ils ont. Hein? Et ils l'oublient qu'ils ont le pire des comportements vers Allah, ils lui associent. Ils ont le pire des comportements vers Allah, Azza wa Jal, ils lui attribuent un enfant. Ils ont le pire des comportements vers Allah, ils l'accusent d'être avare. Hein? Il n'y a pas de comportement sans tawhid. C'est la base du comportement, c'est la clé du pas. Du comportement, c'est le socle. C'est sa base et son point culminant. Sans tawhid, il n'y a pas de comportement. Sans tawhid, aucune action n'est acceptée chez Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, Ana aghna shuraka yani shirk. Man amila amalan ashraka ma'ya fi ghayri taraktu wa shirka. Wa fi riwayatin fa huwa lilladhi ashrak. Je suis celui qui se passe le plus d'associations. Celui qui fait un acte en me donnant un égal dedans, un associé dedans, je l'abandonne lui et son associé, ou bien lui et son association. On voit ici que parmi les conditions d'acceptation des actes d'adoration chez Allah, il y a la sincérité. On voit ici la mise en garde contre le mauvais comportement envers les gens dans le besoin. Comme le fait de leur donner et de leur mentionner nos faveurs. Je t'ai fait ça et je t'ai aidé. Parce que tu diminues de sa noblesse. Tu lui fais mal au cœur. Tu l'attristes. Hein? Il est dans le rabaissement de la pauvreté et sa difficulté. Et toi, tu lui mets un coup de massue. Et toi, tu enfonces le clou. Alors que ce qui t'est demandé, c'est d'avoir de la pitié, de l'altruisme et de l'empathie envers les gens dans le besoin et les gens qui sont en dessous de toi dans leur rang, car il se peut qu'ils soient bien au-dessus dans la piété et chez Allah et, donc au paradis. Sous quel prétexte on pourrait se permettre de se voir au-dessus d'une personne parce qu'elle est pauvre ou parce qu'on lui a fait un bien dans sa vie? Ce bien que tu lui as fait, ce don que tu lui as donné, c'est Allah qui l'a mis dans ta main, premièrement. Deuxièmement, c'est Allah qui a fait bouger ton cœur pour que tu fasses cette bonne action. Troisièmement, c'est Allah qui t'a donné la capacité de le faire. Donc, el-minna, elle revient à qui en réalité? La grâce, la faveur tout entière, elle revient exclusivement à qui? Elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Toi, tu n'es qu'une cause parmi les causes de cet univers. Et si c'est pas toi, c'est un autre. Par contre, si c'est pas Allah, il n'y a pas d'autre. Si c'est pas Allah, il n'y a pas d'autre. Mais si c'est pas toi, c'est qu'une cause. Allah Azzawajal va en mettre un autre sur le chemin. Hein? La mère est la cause de la vie de l'enfant. Quand la mère, elle décède, Allah Azzawajal donne sa subsistance ou pas? Il donne sa subsistance. Et nous, on n'a pas mis au monde ces gens-là. Et on pense qu'on peut faire l'imtinan avec eux. Allahu Akbar. Cet enfant qui était porté dans le ventre, sa subsistance lui venait du cordon ombilical. Et ensuite des seins. Et ensuite. Et subhanallah, cette personne, quand elle décède, Allah continue à donner la subsistance à cet enfant. Et toi, tu penses que tu peux faire l'imtinan avec les gens? Allahu Akbar. Quel mauvais comportement. Quel mauvais comportement envers la personne qui est dans le besoin. Et souviens-toi que l'état dans lequel il est, il se peut que toi, demain, tu sois dans cet état. Comment est-ce que tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi? Donc maintenez la dignité des gens dans le besoin. Maintenez la dignité des gens qui sont dans le besoin, même lorsque vous leur donnez. Et même lorsque vous êtes la cause, peut-être, d'un bienfait dans ce bas monde. Donc ici, on doit faire attention à ne pas casser le cœur des gens dans le besoin. À prendre soin du cœur des gens qui sont dans la difficulté. Et ici, j'ouvre une parenthèse de l'époque, qui va avec cette époque et qui va avec les smartphones. Certains ne mangent rien, ne boivent rien, sans le filmer, sans le photographier, pour ensuite le mettre sur les réseaux. Hein? Les savants ont fait la remarque sur ce comportement-là. Je ne parle pas de ceux qui le font entre proches, entre amis, ainsi de suite. Je parle de ceux qui postent cela. Est-ce que ces gens ont pensé aux pauvres qui se doivent de travailler du matin au soir pour amener juste du pain chez eux? Hein? Et lui, il montre tout ce qu'il mange au restaurant et la moitié va à la poubelle, une table à 1000 euros ou à 500 euros? Hein? Ou la sœur, elle montre sa grande table de Ramadan et ça, parce que son mari est le directeur de tel ou le patron de tel. Hein? Et ensuite, elle met ça sur ses réseaux qui vont être vus par une femme dont le mari peine à amener du pain quotidiennement. Il cumule deux travail pour payer le loyer en retard, pour payer des dettes et pour nourrir ses 5 enfants et son épouse. Est-ce que la sœur a pensé à ça? À la peine qui va toucher l'enfant du voisin lorsqu'il va voir tout ce que eux ont et que eux n'ont pas? Est-ce qu'on a pensé à ça, ikhwat al-iman? La hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu prends des courses et tu les ramènes chez toi, le prophète alayhi salatu wa salam nous a éduqué lorsqu'on veut faire un don au voisin de commencer par qui? Dites-moi, la porte la plus proche, c'est quoi la sagesse? C'est que ce sont ceux qui voient ce qui rentre chez toi. C'est eux qui voient ce qui rentre chez toi. Alors en leur donnant, tu vas soigner leur cœur. En leur donnant, tu vas apaiser les enfants. Hein? Tu as ramené un sachet où il y a 10 bonbons. Et vous êtes 3. Et chez le voisin, ils sont 2. Le fait de donner 2 bonbons pour les enfants du voisin qui a vu ce sac rentrer chez toi. Allahu Akbar, peut-être que par ces 2 bonbons-là, tu viens de poser ton premier pur au paradis. Parce que tu as fait rentrer la joie dans le cœur de croyants. Hein? Peut-être ils vont passer la meilleure soirée de leur vie. Peut-être leurs parents n'ont pas les moyens de leur acheter des bonbons. Hein? Peut-être que les parents n'ont pas les moyens de leur acheter un dessert. Et toi, il y a un gâteau, il y a 10 parts, 12 parts. Et tu as pensé à donner 2 parts pour eux qui n'ont pas les moyens. Ils connaissent pas le mot dessert, ils connaissent pas ce mot-là. Ils n'ont pas grandi avec ça. Hein? Ils partagent 1/4 de poulet entre les parents et les 2 enfants. Et toi, sur ta table, il y a 1 poulet entier et de la viande. Et le fait de donner un peu seulement au voisin ou de rajouter de l'eau dans le bouillon, tu donnes un peu de soupe en plus, ça t'enlève rien. Peut-être que avec cette action-là, tu vas poser ton pied au paradis. Donc, il faut penser au ressenti du pauvre, de celui qui est dans le besoin et lui être bénéfique comme on le peut. Aussi, cette parabole nous avertit contre les défauts. Naam, et nous appelle donc à la réforme. Waffaqana Allah wa iyyakum. Al-mathal as-sabi', la 7e parabole. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah. Et bien rassuré, il ressemble à un jardin sur une colline, sur un mont. Qu'une averse l'atteigne, il double le rendement de ses fruits. À défaut, une averse légère qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Quelle est la parabole ici? La parabole d'avant, c'était une parabole sur qui? Sur les actions des gens qui ont dépensé par ostentation. Là, c'est le contraire. C'est une parabole sur les gens qui dépensent leur richesse à la recherche de l'agrément d'Allah. Sur les gens qui dépensent leur richesse à la recherche de l'agrément d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a comparé à un jardin fertile. Il n'est pas au pied de la vallée. Non, il est au-dessus. Il est sur la colline. Et ce jardin-là, bien qu'il soit déjà le mieux placé par rapport au jardin des autres, il reçoit une forte pluie. C'est pas un peu, c'est une forte pluie. Et dans le cas contraire, même si c'est la rosée, vous voyez ce qu'est la rosée, les simples gouttelettes au matin que tu vois sur la végétation, ou parce qu'il y a eu un tout petit peu de pluie seulement, et bien que ce soit le premier ou le deuxième, ce jardin va produire énormément de récoltes. Il va produire une récolte abondante. Naam. Étudions cette parabole. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. L'exemple de ceux qui dépensent de leurs biens. Est-ce que pour l'instant il y a une différence entre la parabole d'avant et celle-ci? Les gens d'avant, ils dépensaient de leurs biens ou pas? Oui. Ceux-là, ils dépensent de leurs biens? Oui. D'accord. Où est la différence alors? Ibtira amardatillah. Ces gens-là, ils recherchent l'agrément d'Allah. Dans l'exemple d'avant, ils recherchaient quoi? Les éloges de qui? Des gens. Celui d'avant était dans le shirk. Celui de maintenant, il est dans quoi? Dans le tawhid. Il est dans et tawhid. Allah Azza wa Jal nous mentionne en parabole l'objet de comparaison qui est, ou les gens qui sont comparés qui sont, des gens qui travaillent dans un domaine halal, licite. Leur bien, leur travail, leur salaire, il est halal. Ce qu'il possède est halal. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils vont dépenser ça avec un état du cœur qui est la sincérité. Avec un but qui est le plus louable dans ce bas monde, il n'y en a pas au-dessus. C'est rechercher l'agrément d'Allah. Troisièmement, la façon de donner. Tathbita. Vous voyez, lorsqu'une personne veut faire une sadaqa, hein, elle sort son argent. Ou il est dans sa poche. Il sait que l'argent est dans sa poche. Et au moment de faire l'action, qu'est-ce qui se passe? Il y a un doute qui s'installe. Et le shaitan vient et lui rappelle des charges. Il lui rappelle des enfants. Il lui rappelle des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est dur, il est fort, il est ferme? Il commence à faiblir. Il commence à avoir le doute. Il commence à faiblir et il commence à avoir le doute. C'est le contraire de ça que signifie « وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ». Ils sont fermes. Ils ont la certitude dans la promesse d'Allah, dans la récompense d'Allah. Ils sont déterminés à faire l'action. Leurs mains ne tremblent pas. Leurs mains, elles ne tremblent pas. Donc, ils ont travaillé dans le halal. Ils ont de l'argent halal. Ils le donnent avec sincérité. Et la manière de le donner, ça tremble pas. C'est avec détermination, avec certitude, dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ils observent où ils vont mettre ce bien-là. C'est-à-dire celui qui va recevoir la donation, il fait attention où il va poser son argent, son investissement et son commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, biyaqin, comme a dit Qatada rahimahullah ta'ala, yatathabbatoun, comme a dit Mujahid rahimahullah ta'ala. Donc, c'est un don qui résulte d'un apaisement total du cœur. Il fait cette sadaqa, il déteste pas son action. Il fait cette sadaqa, c'est pas lourd pour lui de sortir son argent qu'il aime. Pourquoi? Parce que il le donne pour celui qu'il aime au-dessus de tout. C'est ça le secret. Comment donner ce que tu aimes en te rappelant que tu le donnes pour celui que tu aimes plus que tout? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ne voyez-vous pas le père qui sort travailler dans la difficulté? Il réunit de l'argent. Il a connu la pauvreté. Puis il a connu la richesse. Il dit Alhamdulillah. D'accord. Est-ce qu'il peut sortir avec son argent? Il prend 1000 euros de son argent, un inconnu lui donne. Rares sont ceux qui font ça, n'est-ce pas? D'accord. Calcule combien ton enfant t'a coûté, hein, en un an. Puis en 2 ans. Puis en 3 ans. Puis ceux qui ont des enfants, qui se rapprochent de devenir des hommes. Hein? Les courses qu'ils faisaient toutes les 3 semaines, ils commencent à les faire toutes les semaines. On dirait qu'il y a des, yani, subhanallah, le frigo, qui s'est rétréci. Vous connaissez ça ou pas? Hein? Vous connaissez? Tamam. Quand il y en a un deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Puis quand il commence à être, avoir l'âge d'aller dans le frigo en cachette. Vous connaissez ça ou pas? Allahu Akbar. Hein? Subhanallah, tu dépenses des milliers pour tes enfants. Alors que t'as travaillé dur, alors que peut-être t'as connu la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Tu comptes pas. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Hein? J'ai cité les exemples des enfants. J'aurais pu citer le deuxième. Hein? Mais on veut la paix. Hein? On cherche la paix. Hein? Khana Ali, zakart lahum. Aywa. خير من شاركنا الخير اياك تمام فالمال نحبه حبا جما ومع ذلك ننفقه لمن نحب اكثر من المال لاولاد وهذا الولد بدا يكبر فياكل ضعفين ثم ياتي الثاني والثالث لكن ننفق فقلت لهم ضربت لهم المثل بالاولاد وما ضربت لهم المثل بهذه لا نريد مخاصمه معها. Et on remercie notre frère, le directeur du centre. Allah le récompense pour nous, pour notre accueil. Naam. Et je suis témoin qu'il m'a proposé maintes et maintes fois de venir, mais par faiblesse. Naam, je n'ai répondu à son invitation que 3 mois après qu'Allah Azza wa Jal mette cela dans la balance de ses récompenses. Naam. Et qu'il le récompense pour tous les efforts qu'il fait pour les enfants de la communauté. Naam, dans son centre, ils enseignent aux enfants. dont le mien, ils enseignent Mada, il y a un qism pour les femmes, il y a un qism également pour les enfants. Et Masha'Allah, dans le parler, c'est un des meilleurs centres où j'ai pu voir les fruits. En 3-4 mois, des gens qui sont rentrés ici ressortent et ils parlent. Naam. Jazakumullahu khayran. Tous les membres de la communauté qui s'entraident pour notre éducation, pour l'éducation de nos sœurs et de nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le plus haut degré du paradis. Parce qu'en réalité, les frères, quand on va quitter ce bas-monde, il va rester quoi? Hein? Il va rester quoi? Tu laisses les enfants, tu laisses... S'ils sont pas dans l'ilm, s'ils sont pas dans cette baraka-là, ils vont aller dans quoi? Et ils vont aller où? Qu'Allah nous préserve et les préserve de notre vivant et après notre départ. Donc, dans cette parabole, la personne a dépensé avec sincérité. Elle espère la récompense d'Allah Azza wa Jal, son agrément. On a comparé cela à une colline. Il y a la vallée, qui est l'espace plat entre deux montagnes. Et il y a des petits monts, n'est-ce pas? Et vous voyez que toujours, l'herbe, elle pousse en premier. Que les arbres poussent en premier. Et que les fruits sont plus abondants, plus haut. Pourquoi? Le soleil touche plus ce qu'il y a en bas ou ce qu'il y a en haut? Ce qu'il y a en haut, d'accord. Et lorsque la pluie tombe, ça touche en premier ce qu'il y a en bas ou ce qu'il y a en haut? Ce qu'il y a en haut. Donc c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Kamathali jannatin. Allah nous dit c'est comme un jannah. C'est comme un jardin où il y a beaucoup d'arbres. Où il y a de l'ombre. Naam. Et c'est pour ça qu'on a appelé le paradis Jannah. Parce que le Jannah, hein, il y a le Jim, il y a le Noun. Et ça, c'est une base authentique qui renferme quel sens? Le sens des choses cachées. Comment est-ce qu'on appelle le fœtus dans le ventre? Al-Janin. Comment on appelle ce qu'on ne voit pas? Les djinns. Comment on a appelé Mada? Et plein d'exemples comme ça. Eh ben, le paradis, il y a beaucoup d'arbres. Et celui qui rentre, il est comme ombragé. Alors on l'a appelé Jannah. On l'a appelé Jannah. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse tous entrer au paradis avec nos parents, nos enfants, femmes, nos savants, nos gouverneurs. Hafidhahumullah ta'ala. Et ce jardin-là, bien qu'il soit comme décrit, en plus de cela, birabwa. C'est quoi al-rabwa? Al-rabwa, c'est l'endroit élevé, comme on a traduit par la colline. C'est l'endroit élevé, mais stable et plat. Naam. Le soleil le touche particulièrement. Il boit la plupart de la pluie qui tombe avant qu'elle ne s'écoule, n'est-ce pas, en aval, avant qu'elle ne s'écoule, en amont plutôt. Et cet endroit, c'est celui qui est le plus exposé au soleil. Parce que les autres endroits, au lever, peut-être, ils subissent le soleil. Naam. Mais la deuxième partie de la journée, ils sont dans l'ombre. Hein, quand tu choisis un appartement, il faut venir. Pas que le matin et pas que la fin de la journée. Pour les connaisseurs. Hein? Barakallahu fikum. Birabwa. Donc, c'est aussi l'endroit des vents. C'est celui qui reçoit le plus le vent. Contrairement aux endroits qui sont en amont. Par conséquent, ses cultures, ses fruits sont les meilleurs, les plus bons et les plus abondants. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Asabaha wabil ». Al-wabil, comme on a dit, c'est une pluie forte, une averse. En plus de la place, en plus de cette élévation, il y a une pluie qui est forte, qui tombe dessus. « Fa'atat ukulaha dhafein ». Alors, Mada, il a donné ses fruits en double. Ils sont plus bons, ils sont plus abondants, ils sont plus nombreux parce qu'ils viennent d'une meilleure terre qui était mieux placée et en plus de ça, il a reçu plus de pluie, plus de soleil, plus de vent. Ainsi, il a plus que ses voisins. Ça, c'est l'exemple. Cette abondance-là, c'est l'exemple de As-Sabiqoun al-Muqarraboun. Les croyants sont, en général, on peut les classer en trois niveaux. As-sabiqoun al-muqarraboun.
المقتصدون
السابقون المقربون c'est ceux qui font les obligations et rajoutent les actes recommandés. Ils délaissent le haram et ils détestent les actes détestables. Plus étonnant que cela, ils s'éloignent même des futilités, de certaines futilités. Ça, c'est le top niveau. Le deuxième niveau, al-muqtasidun, ils s'économisent. Ils se contentent de faire ce qui est obligatoire et de délaisser ce qui est haram.
Naam. Al-mu'minun.
Le troisième niveau, ceux qui se causent du tort à eux-mêmes. Wa'alimuna li'anfusihim. Ils font certains péchés en dessous du shirk et délaissent certaines obligations.
Naam.
Ils ont du bien, mais ils font des péchés. Et ils ne font pas toutes les obligations. Allah Azza wa Jalla nous a parlé de al-muhsinoun, les gens de l'excellence. C'est le premier cas. Le deuxième cas, on nous dit, فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ. Si c'est pas une averse qui tombe sur ce jardin, alors ça sera quoi? Ça sera au moins la rosée. C'est-à-dire un peu de pluie ou bien ne serait-ce que les effets avec quelques gouttelettes. Vous avez compris? Ça, c'est l'exemple de ceux qui sont dans le bien, mais qui l'ont pas parfait. Hein? C'est l'exemple de ceux qui ont un niveau moindre. Mais ils sont dans le khair, ils ont du bien en eux. Hein? Ils font des efforts. Ils font des efforts. Ils combattent leur âme. Ils essayent de faire du bien, ils essayent de délaisser le mal. Ils aiment Allah et son messager, mais ils ont encore des défauts. Ils font des efforts. Et de toute façon, le sol est tellement bon et béni, tellement bien placé, que même ce peu de pluie-là et cette rosée-là a suffi à quand même donner des fruits. Allahu Akbar. Jamais tu seras perdant à être avec les croyants. Jamais tu seras perdant à être avec les croyants. Allahu Akbar. Hein? Ce peu de rosée-là a quand même donné des fruits, a quand même donné du bien. Pourquoi? Parce que sa base est bonne. Il y a le tawhid, il y a l'ikhlas. Il y a le tawhid, il y a l'ikhlas. Il y a la sincérité, il y a l'amour d'Allah et l'amour de son messager. Il y a le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc voici l'exemple des croyants. Voici l'exemple de ceux qui ont cherché l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs différents degrés. L'exemple des hypocrites, ils donnaient beaucoup, ils faisaient beaucoup, mais c'était pour les gens, il n'y avait pas la sincérité. Alors ça a disparu, il n'y a pas de hasanat yawm al-qiyama. Et l'exemple des gens sincères, ils ont donné, certains beaucoup, certains peu, mais la base est bonne. Il y a le tawhid, il y a l'ikhlas, alors ils ont gagné dans ce bas monde, ils ont gagné dans leur tombe, ils gagneront dans l'au-delà. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit que s'il y avait un jardin comme ça dans ce bas monde, qui donne ses fruits, qui est facile à cultiver, tu reçois tout ce bien-là, les gens se seraient combattus pour l'obtenir. Alors qu'il y a un paradis meilleur dans l'au-delà, et les gens sont paresseux. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Et les gens travaillent pour ce bas monde et travaillent, alors qu'il va disparaître. Et ils travaillent peu pour l'au-delà, alors qu'il est éternel. Cette récompense-là, ou cette parabole-là de ce bas monde, elle doit te projeter dans l'au-delà. Et tu dois penser à la grande récompense qu'Allah Azza wa Jal, le riche, le généreux, le grand donateur, t'a promis. Si tu donnes, que ce soit beaucoup, que ce soit un peu, tant que le cœur est vivant et il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu recherches son agrément, eh ben Allah Azza wa Jal va te donner une grande récompense. Ces textes-là doivent développer ta détermination, doivent développer ta générosité envers les gens dans le besoin et surtout la pureté du cœur au moment où tu fais la bonne action. Tu dois espérer la récompense chez Allah. Parce qu'elle est multiple, ou elle est multipliée. Si on avait la certitude dans la promesse d'Allah, que la récompense, elle va être décuplée comme cela, on donnerait beaucoup plus, avec un cœur beaucoup plus pur, et beaucoup plus doux. Allah finit ce verset en disant, Wallahu basirum bima ta'amalou. Allah est clairvoyant de ce que vous faites. Qu'est-ce qui va marquer la distinction entre la première catégorie des hypocrites, et la deuxième? C'est la sincérité. Qui voit ça? Qui sait parmi nous qui est sincère? C'est Allah. Alors Allah finance en Wallahu basir bima ta'amalou. Allah est clairvoyant de ce que vous faites. Donc si vous avez été sincère, vous avez été véridique, Allah Azza wa Jal l'a vu et il va vous donner la grande récompense. Il va vous donner la grande récompense. Pour finir, quelques grandes fawaïdes de cela. on voit l'importance de la purification du cœur, l'importance de la sincérité, l'encouragement aux bonnes œuvres, particulièrement au sadaqa. Et on est dans le mois de Ramadan. Prophète était le plus généreux dans le mois de Ramadan quand Jibril venait le voir pour lui enseigner le Coran. Non. Une grande faïda aussi que j'ai lu d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans Tafsir Ibn Qayyim, d'Ibn Sa'adi, c'est que subhanallah, ces gens-là dépensent pour Allah, n'est-ce pas? Yani ils dépensent. On a cité deux caractéristiques. À la recherche de l'agrément d'Allah et avec détermination, avec fermeté. Or, les deux défauts dans les dépenses, quand tu donnes les aumônes, les deux défauts, c'est quoi? Le premier, c'est l'absence de sincérité et l'ostentation. N'est-ce pas? Le deuxième, c'est quoi? C'est d'avoir la main molle, comme l'expression dit. C'est-à-dire de donner, mais t'hésites, t'as un doute, hein? T'as du mal à donner. Eh ben, Allah Azza wa Jal a mentionné dans ce verset les éloges des croyants en les préservant des deux défauts. Mardatillah, à la recherche de l'agrément d'Allah, ça exclut quoi? L'ostentation. Tathbitan, ça exclut quoi? Le doute et la faiblesse dans le don. Le doute et la faiblesse dans le don. Na'am. Khitaman, ikhwat al-iman. Ces gens-là ont réussi parce qu'ils avaient un seul objectif. L'agrément d'Allah. Une seule divinité, Allah, Tawhid. Un seul suivi chemin, le chemin du prophète, alayhi salat wa salam, et sunnah. Hein? Et le fait de recentrer son objectif, c'est gage de réussite. On doit tous avoir, ikhwat al-iman, comme objectif, la recherche de l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si on a vraiment cet objectif et que le cœur est vivant, écoutez ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Écoutez ce hadith exceptionnel. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: celui qui donne en sadaqa un bout de date, ou la moitié d'une date. Ça coûte combien la moitié d'une date? À combien on peut estimer comme... Est-ce que ça fait un centime? Hein? Faites-moi ce calcul-là, les mathématiciens, les commerçants. Hein? Je voudrais savoir combien coûte une date. Donc, si un kilo ça coûte tant, et dans un kilo il y a tant de dates, faites le calcul, ensuite vous divisez ça et vous me rapportez. Inch'Allah, l'information, ça m'intéresse fortement. Celui qui donne en sadaqa, la moitié d'une date de son argent halal. Et certes, Allah n'accepte que ce qui est pur. Alors Allah l'acceptera dans sa main droite. Puis il la développera et la fera grandir, grossir. Comme l'un de vous éduque son poulain. Fulouwa, c'est l'enfant. Naam, c'est le petit de la jument. Comme l'un de vous éduque son poulain. Jusqu'à ce que cette sadaqa-là devienne comme la montagne. Vous voyez c'est quoi la moitié d'une date au pied d'une montagne? Et vous voyez la montagne elle-même? Et ben de cette moitié de date d'argent halal avec un cœur vivant, ta sadaqa devient la montagne. Yom al-qiyama, tu trouves cette montagne-là. Yom al-qiyama, tu trouves cette montagne-là. Donc accourez à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez de ceux qu'Allah dit dans le Coran, radiallahu anhum wa radu an. Hein? On doit tout faire pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Voici le jour où les véridiques tireront profit de leur véracité. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiallahu anhum wa radu an. La véracité, ça ramène ce résultat-là. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La recherche de l'agrément d'Allah, c'était le but de tous les prophètes. Lorsque Moussa alayhi salam a couru vers son Seigneur, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran, dans surat Taha? Wa'ajiltu ilayka rabbi li tarda. Je me suis empressé de venir vers toi, mon Seigneur, pour que tu sois satisfait de moi. Ça, c'est la parole des prophètes. Ça, c'est le chemin des prophètes. Suleyman alayhi salam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Hein? Il recherche des bonnes œuvres qu'Allah va agréer. Qu'Allah Azzawajal va agréer. Et même dans la difficulté, il recherche l'agrément d'Allah. Quand le prophète alayhi salatu wasalam a eu le décès de son enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Innal ayna tadma', les yeux pleurent. Wal qalb yahzan, le cœur s'attriste. Wala naqul illa ma yarda rabbuna. Mais on ne dit que ce que notre Seigneur agrée. Aw yurdi rabbana, ou ce qui cause l'agrément du Seigneur. Dans toute situation, tu dois chercher l'agrément. Pourquoi ikhwat al-iman? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on prie? C'est quoi le but? C'est l'agrément d'Allah. C'est pour cela que le plus grand bienfait au paradis, ou le deuxième plus grand bienfait au paradis, et on finira sur cela. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah ya ahli al-jannah, fayaqulun labbayka rabbana wa sa'dayk, fayaqulu hal raditum, fayaqulun wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Le jour jugement dernier, quand les gens du paradis seront entrés au paradis, les gens de l'enfer seront entrés en enfer, Allah, exalté et élevé soit-il, dira aux gens du paradis, ô les gens du paradis, ils répondront, nous répondons à ton appel, ô notre Seigneur, il leur dira, est-ce que vous êtes satisfaits, c'est-à-dire de la récompense? Ils répondront, et comment est-ce qu'on pourrait ne pas être satisfait alors que tu nous as accordé ce que tu n'as jamais donné à une de tes créatures? Alors il leur dira, est-ce que vous voulez que je vous donne meilleur que cela? Alors ils diront, ô notre Seigneur, et qu'est-ce qu'il y a de meilleur que cela? Alors il leur répondra, Uhillu alaykum ridwani wa la ashatu alaykum abada. Je mets sur vous mon agrément. Je vous accorde mon agrément et je ne serai plus jamais courroucé. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. Et est-ce que le, et ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri, ça c'est le but que doit rechercher chaque musulman. Ça c'est le but que doit rechercher chaque jeûneur. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire entrer dans son paradis et nous accorder son agrément. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا للقرآن يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف امهاتنا وآباءنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم انك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فنسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخلنا أجمعين جنة الفردوس يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.